France Culture. Rome, février 1564. C'est la période du carnaval. La cité pontificale résonne du tapage des courses, des bouffonneries et des fêtes populaires. C'est un moment d'excès durant lequel le peuple célèbre bruyamment l'alliance entre Dieu, le pape, les traditions antiques et les cycles de la vie. Mais au cœur de cette effervescence, dans une humble maison-atelier du quartier Massel de Corvi, le silence se fait. On chuchote. Près du feu, un vieil homme a froid. Il n'a plus de force. Il se meurt. C'est Michel-Ange, celui que ses contemporains surnomment alors le divin. Il divino Michelangelo.
En fait, il meurt à la veille de son anniversaire, quelques jours avant. Il l'aurait fêté le 6 mars. Et il a 88 ans, presque 89, ce qui a un âge plus que vénérable à cette époque. Donc, on s'y attendait.
L'enlèvement de Michel-Ange, épisode 1, l'exil et l'agonie. Un documentaire de Laurent Védrine, réalisé par Somanina.
La mort de Michel-Ange intervient le 18 février 1564 à Rome, une ville où il habite depuis 30 ans.
Sefi Handler.
Il y a une certaine agonie. Les dernières semaines, les derniers mois, on sait très bien qu'il ne va pas bien. Et donc, tout le monde est un peu dans l'attente de ce mort qui va intervenir. En effet, cet hiver 1564. Michel-Ange est très 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 connu. Il a atteint une notoriété inégalée par tout autre artiste. Et c'est à ce moment-là que ça va devenir un événement public.
Dans un milieu où les rivalités sont évidemment exacerbées...
Laurent Binet, écrivain.
Comme tous les milieux compétitifs, tous les milieux artistiques, les peintres, les sculpteurs, les artistes se jalousent, se tirent la bourre, il y a des coups bas, des intrigues féroces pour récupérer telle ou telle commande. Personne ne discute le fait que Michel-Ange, c'est le plus grand. Tout le monde reconnaît la primauté de Michel-Ange.
Michelangelo Buonarroti est aussi un personnage,
Antonella Fenech,
il faut l'imaginer, pour l'époque, qui avait une renommée européenne, je dirais, internationale. Une renommée qui était due à son art, à sa personnalité, à sa poésie. Il était convoité, parce qu'il ne faut pas oublier que Michel-Ange avait été invité, on dit, à construire le pont sur le Bosphore, entre Istanbul et Pera. Ça va au-delà de l'Europe. Donc sa renommée était absolument incroyable pour l'époque.
Le fait que Michel-Ange arrive à mener une carrière pendant de longues décennies lui permet en effet de laisser des traces très visibles, très souvent monumentales, sur l'art de son époque. Si je dois citer 4 ou 5, on va commencer par la Pietà du Vatican, qui ouvre la voie à une notoriété qui brise les frontières de Florence. Ensuite, bien sûr, David est commandé par la République florentine, donc Il Gigante. Ensuite, le plafond de la chapelle Sixtine pour le pape Jules II. Le Jugement dernier pour le pape Farnèse, toujours dans la chapelle Sixtine, et l'œuvre de sa vie, finalement, la coupole de la nouvelle basilique de Saint-Pierre, il y consacrait toute son énergie, tous ses efforts pendant la dernière décennie de sa vie. Donc, il laisse quand même un corpus très visible entre Florence et Rome, avec un accent peut-être un peu plus romain.
Il est un monument de Rome. Les artistes du nord d'Italie, du nord de l'Europe, de partout, venaient à Rome pour apprendre. Mais il y avait un autre monument, et c'était un monument contemporain vivant, qui était Michel-Ange et ses œuvres. Donc, tout cela de son vivant.
C'est le seul artiste vivant qui a le droit d'avoir sa biographie publiée. La première version ô combien connue de la vie de Michel-Ange, Vita di Michelangelo Buonarroti, 1550, publié par Vasari dans sa vie des peintres, sculpteurs et architectes de la Renaissance, c'est à ce moment-là, je dirais, que la légende est codifiée. Et ça, c'est très très important.
Première page de la biographie de Michel-Ange par Vasari. De grands esprits dotés de savoir-faire devaient aux lumières apportées par Giotto et ses successeurs de pouvoir démontrer leurs talents. À proportion des dons que leur consentaient les faveurs des astres et leur tempérament, ils aspiraient à une qualité artistique qui assimila la grandeur de la nature pour atteindre le plus possible au savoir supérieur de l'intelligence. Tous s'y employaient, mais en vain. Dans son infinie bonté, le maître du ciel tourna des regards cléments sur la terre et devant le spectacle de ses innombrables efforts inutiles, de ses études pleines d'ardeur et sans résultat, de cette présomption humaine aussi éloignée du vrai que les ténèbres de la lumière, et pour nous tirer de toutes ces erreurs, il se résolut à envoyer sur terre un esprit également apte à tous les arts et à toutes les disciplines, démontrant à lui seul où est la perfection de l'art du dessin pour les lignes, les contours, les ombres, les lumières et l'effet du relief en peinture, les opérations judicieuses en sculpture et la production en architecture. Enfin, il tint à lui donner pour patrie Florence, comme la plus digne des cités, pour mettre le comble à la perfection de tous ses mérites à travers un de ses citoyens.
Si vous regardez donc dans les vies de Vasari, Vasari consacre 90 pages à Michel-Ange, le Titien 20, Raphaël 35 pages et Léonard de Vinci 15. Vasari, l'historien de l'art, ça c'est nous la perception qu'on a de Vasari aujourd'hui, il n'était pas que ça, il était aussi l'homme à tout faire du duc de Florence, Cosimo de Médicis, une sorte de ministre de la culture.
On parle de Comprimier, duc de la Toscane. Il est né en 1519, il accède au pouvoir à l'âge de 17 ans, c'est quelqu'un de très avide, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui a su vraiment consolider le pouvoir, pas uniquement par les armes, mais par cette force culturelle, et il a su le faire d'une façon vraiment brillantissime.
Giorgio Vasari et Comprimier, les deux sont deux personnages qui, à un certain moment, dans les années 1550, commencent à interagir de manière extrêmement étroite dans la construction d'un mythe politique. C'est la construction d'un État, de l'un des premiers États d'Ancien Régime, qui est la Toscane Grand-Ducale. Par cette intelligence politique qui le caractérisait, Cosimo I a compris que l'art était une arme. Michel-Ange Michelangelo Buonarroti, il naît à Caprese, qui est une petite localité, un bourg. Il ne vient pas d'une famille humble, une famille assez aisée, et donc il est un Toscan, un Florentin on peut dire, de culture et de nationalité, parce qu'on parle de nazione à cette époque, même si les proportions ne correspondent pas aux états d'ancien régime.
Il intègre très tôt cette pseudo-académie de l'art dans la cour de Lorenzo il Magnifico, Laurent de Médicis. Donc, il y a cette proximité avec le pouvoir qui est immédiate. Et cette proximité lui permet de mieux comprendre le maintien du pouvoir.
À ce moment-là, les Médicis sont ces grandes familles florentines qui essaient de transformer les régimes politiques et social et économique florentin en une oligarchie, un régime oligarchique, et ensuite en un régime autoritaire, tel que Florence l'aura à partir des années 1530.
Michel-Ange refuse de se soumettre à ces régimes princières. Il croit profondément dans les valeurs de la République florentine. Et il prend une décision très forte. En 1534, Michel-Ange fait ses valises, quitte Florence et débarque à Rome, qu'il connaissait bien. Et depuis ce moment, il ne va plus mettre les pieds à Florence, où sa famille réside toujours. Et cela est un choix douloureux.
Il s'en va de Florence en 1934, définitivement. Peut-être il ne savait pas que c'était ce dernier moment à Florence. Mais en même temps, il protège sa famille contre les risques réels que constitue d'être un adversaire médicien. Le risque est un risque aussi vital. Il n'a jamais affronté la question politique de manière frontale. Michel-Ange, à Rome, habitait et a toujours habité une petite maison assez modeste, aujourd'hui détruite, qui se trouve à côté de Palazzo Venezia. La maison où il a réellement habité était composée de deux étages. Rez-de-chaussée, il y avait son atelier, avec une sorte de petite kitchenette. Et au premier étage, il y avait deux chambres. Sa chambre à lui, où il y avait un lit, qui était du simple fer, une vraie paillasse en fait, avec une chaise, une table et surtout le célèbre coffre avec plein d'or que Michel-Ange gardait sous son lit tout le temps depuis des années et qui était plein au moment de sa mort.
Samedi 11 mai 1555, lettre de Michel-Ange à Giorgio Vasari.
Mon cher messire Giorgio, je vous prie de remercier de ma part le duc de ces offres très généreuses dont vous me parlez et de prier sa seigneurie qu'avec son assentiment et sa bonne grâce, je puisse poursuivre encore le chantier de la coupole de la basilique Saint-Pierre auquel le pape m'oblige, afin de pouvoir ensuite m'en aller sans dommage pour ma bonne réputation et mon honneur, et sans péché.
Côme a écrit des lettres personnellement à Michel-Ange pour lui dire de rentrer, promettant des ponts d'or et tous les égards dus à son rang de plus grand artiste du siècle. Et Michel-Ange a toujours trouvé, avec beaucoup de tact et de précaution, a toujours refusé.
Mai 1557, lettre de Michel-Ange au duc Côme Ier de Médicis.
Seigneur duc, je reçois de nouveau une lettre de votre seigneurie qui me sollicite de revenir plus vite que je ne m'y attendais. Cela m'angoisse énormément. Laissez-moi encore un peu de temps, encore un an, que je puisse terminer le chantier du pape, ainsi je pourrai m'en retourner à Florence dans l'intention de me reposer en compagnie de la mort, avec laquelle, jour et nuit, je cherche à me familiariser afin qu'elle ne me traite pas plus mal que les autres vieillards.
Cosimo va se révéler être un immense homme d'État, en fait. Il va devenir grand-duc de Toscane en naviguant dans une situation géopolitique et politique extrêmement compliquée, c'est-à-dire qu'il doit d'abord mater les républicains. Comme toutes les principautés italiennes de l'époque, il doit survivre sous la menace permanente des deux superpuissances de l'époque, qui étaient l'Espagne et la France, en s'inscrivant dans l'héritage de son aïeul, même si c'est pas la branche directe, Laurent le Magnifique, et donc en ayant une politique culturelle extrêmement développée, en favorisant les arts et les artistes, pour une sorte de bataille pour l'hégémonie culturelle. Et nécessairement, les artistes sont obligés, d'une façon ou d'une autre, même les plus rétifs, d'être un peu courtisans. C'est-à-dire qu'ils doivent naviguer dans les différentes cours d'Italie et d'Europe. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, ils doivent être bien avec les princes, mais en même temps, les princes les courtisent aussi. Et à l'arrivée, on ne peut pas exactement parler d'égalité parce que c'est dans des domaines différents. Mais le poids de Michel-Ange, en effet, vaut celui d'un chef d'État.
Je vais utiliser une terminologie qui risque d'apparaître anachronique, le soft power, le célèbre soft power. Florence, il s'agit d'un territoire modeste. Et qu'est-ce que Florence va faire? Redevenir cet centre culturel, cet épicentre de la Renaissance italienne. Et cela passe donc par la codification de l'histoire de l'art, voulue par Vasari et par le duc Comte de Médicis. Cela passe avant tout par cette volonté de promouvoir la langue italienne, plus le latin. Le latin, c'est pour Rome. Et nous, on aura cette nouvelle langue qui va conquérir l'Italie. Donc il y a une académie des langues qui, jusqu'à aujourd'hui, l'Académie della Crusca, c'est l'Académie française italienne. Toute cette machine s'est mise en place. Et donc, Michel-Ange, finalement, il arrive à jouer ce double jeu d'être très connu à Rome, très connu en Florence et d'en profiter d'un statut hors norme.
août 1557, lettre de Michel-Ange à son neveu Leonardo.
Leonardo, par ta dernière lettre, comme par les autres, tu m'incites à retourner là-bas. Et moi, je te dis que celui qui n'est pas ici ne m'entend pas et ne me voit pas, ne peut pas savoir quelle situation est la mienne ici. Quant à l'infinie courtoisie, affection et générosité du duc, j'en suis si accablé que je ne sais qu'en dire. Écrire m'est d'un grand ennui, car je suis vieux et plein de confusion.
Cette relation avec Florence est une relation extrêmement troublée et trouble pour lui. Je pense que ça a généré une forme de souffrance profonde pour Michel-Ange. Michel-Ange qui souffrait à la fois à Rome et qui aurait souffert à Florence. À Rome, il a énormément souffert aussi. Justement par les désirs obsessionnels, je dirais, des puissants à avoir des choses de sa main. De son vivant, ses dessins, ces bouts de papier, on les appelait comme ça. Chaque chose que Michel-Ange touchait devenait une relique. On aurait pu s'arracher, payer des sommes faramineuses pour n'avoir qu'un petit gribouillis de Michel-Ange. Mais un gribouillis de Michel-Ange. Mais il y a autre chose, il était aussi pris dans une forme de souffrance. Ses œuvres le rongeaient de l'intérieur. Jusqu'à la dernière minute de sa vie.
Juin 1557, lettre de Michel-Ange à Leonardo.
Pour ce qui est de mon être, mon corps va mal. C'est-à-dire que j'ai tous les maux habituels qu'ont les vieux, le mal de la pierre, ce pourquoi je ne peux uriner, du flanc, du dos, à tel point que souvent je ne peux plus monter l'escalier de chez moi. Mais le pire est que je suis plein de passion.
Michel-Ange, qui était quelqu'un en gros de solide, commence à souffrir quand il est à Rome. Il y a plusieurs chutes pendant ces dernières trois décennies. Et les dernières décennies, et les dernières années, et les derniers mois sont une certaine agonie. Il sort de sa maison, il fait quelques pas, il revient, il a froid, il a envie de manger un fromage, mais c'est la seule chose qu'il a envie de manger. C'est très palpable dans ses lettres. Donc, on voit que ses forces, en quelque sorte, sont en train de partir. Il le sait, les personnes autour de lui le savent aussi. Donc, la grande question va être, à qui appartient le corps ? À qui appartiennent les biens et va-t-il continuer? Et ce qui est important, c'est la volonté de Michel-Ange de contrôler son destin biographique. Qui aura le dernier mot?
En fait, on guette depuis des mois la santé de Michel-Ange. Et on la guette surtout à Florence. Et on le sait parce qu'il y a énormément de documents et des lettres surtout de comprimés à son ambassadeur à Rome, qui donc Averardo Serristori, pour qu'il leur enseigne en temps réel sur la santé de Michel-Ange. Il y a certainement un intérêt artistique, un intérêt affectif, un intérêt, j'utilise un mot peut-être un peu trop galvaudé, patriotique, mais il y a un autre problème, c'est qu'on veut récupérer des œuvres. On veut surtout essayer de s'accaparer certains chefs-d'œuvre de Michel-Ange, ses dessins, tout autre projet qui était dans sa maison.
Août 1557, lettre de Michel-Ange à son neveu Leonardo.
Leonardo, je vois par ta lettre que tu prêtes foi à des individus envieux et malhonnêtes qui, ne pouvant ni me manipuler ni me voler, t'écrivent bien des mensonges. C'est une bande de gredins. Et tu es assez sot pour leur prêter foi à propos de ma situation, comme si j'étais un gamin. Débarrasse-toi d'eux, car ce sont des fauteurs de troubles, des envieux, des hommes de mauvaise vie.
D'une certaine manière, ces lettres avec son neveu, elles sont très émouvantes parce que, bon, il avait un sale caractère, hein, Michel-Ange, il engueule souvent Leonardo, son frère, même son père, avec ce tempérament un peu bougon, un peu à la Jean-Pierre Bacri, si vous voulez, mais avec aussi beaucoup d'affection pour son neveu et avec le soin, le souci de transmettre ses biens et d'assurer à la famille de son neveu, qu'il considérait comme son fils, en fait. Et donc, les dernières années de sa vie, il pense beaucoup à la mort et il n'arrête pas de dire qu'il est vieux, qu'il est plus bon à rien, mais avec ce décalage entre la réalité de ses activités et puis, je crois quand même qu'il fait une petite déprime, mais qu'il n'empêche pas de bosser quand même.
Il était malade, déjà depuis le 14 février 1564, parce qu'il n'arrêtait pas de travailler. Et 88 ans, malade. Mais il faut aussi dire que cette année 1564 était l'une des années les plus froides en Europe. C'était glacial. Donc il a probablement pris froid, il s'est affaibli. Et à un moment, il a été tellement mal qu'il en a un peu perdu la tête. Soudainement, il a ordonné qu'on prépare son cheval Morello, son cheval noir. Pour faire quoi, on ne sait pas. C'était la période du carnaval. En tout cas, ils ont compris que quelque chose n'allait pas.
Michel-Ange est obsédé par la mort ou, si je vais être plus précis, par le salut de l'âme. C'est une question qui lui occupe beaucoup. La dernière lettre que nous avons, 14 février donc 1564, 4 jours avant sa mort, l'artiste et proche de Michel-Ange qui finalement passe tous ses derniers jours à côté du grand maître, Mouron, et qui crie au neveu, à Leonardo Buonarroti, venez vite parce qu'on n'a plus le temps. Donc tout le monde sait qu'il va mourir. Ça s'est joué un peu contre la montre.
Il alerte et ils disent venez le plus vite possible. Ils ne sont pas très explicites, mais il y a une crainte qui arrive. Une crainte réelle.
Lundi 14 février 1564, lettre de Daniele da Volterra à Leonardo.
Très honoré, messire Leonardo. Messire Michel-Ange étant parvenu à l'âge que vous savez, a eu hier quelques essoufflements, accompagnés d'un lourd sommeil. Je me suis rendu à son chevet. Tandis qu'on était là à discuter comme à l'ordinaire, messire Michel-Ange m'a dit qu'il aimerait beaucoup qu'on vous fasse venir, de sorte qu'il me semblerait bon que vous ne tardiez pas. Quand vous serez ici, vous pourrez décider pour l'avenir. Je prie Dieu qu'il vous accorde un bon voyage. Hâtez-vous autant que vous le pourrez.
Ils appellent les médecins, deux médecins, des meilleurs médecins à cette époque. Effectivement, 4 jours après, il meurt.
C'était L'enlèvement de Michel-Ange, épisode 1, l'exil et l'agonie. Avec les historiens de l'art Antonella Fenech et Sophie Hendler, ainsi que l'écrivain Laurent Binet. Documentation Véronique Le Faller, documentation musicale Marion Guilaine et Olivier Dehay. Lecture Daniel Königsberg, David Jakubowiez. Prise de son Manon Houssin, Ruben Carmazine. Mixage Manon Houssin. Coordination, Emmanuel Laurentin, assisté de Sandrine Chaperon. Un documentaire de Laurent Védrine, réalisé par Somanina.
Turn to peace. Sous-titrage Société Radio-Canada.